Pour la suite de l'exposé, je redonne la parole à Pierre Landry.
L'une des zones industrielles les plus gigantesques de la planète a occupé le devant de la scène ces derniers mois, car elles ont été le théâtre d'une série de grèves. Il s'agit de la ville de Shenzhen, en Chine. Cette ville, elle comptait 30 000 habitants en 1976. Elle en compte 16 millions aujourd'hui. C'est là que l'on trouve les usines du groupe Foxconn et leurs 200 000 ouvriers. Sous-traitant taïwanais de tous les géants de l'informatique, Foxconn fabrique notamment les iPhones, les iPads et les Notebooks. Foxconn à Shenzhen, ce sont les syndicats interdits, les salaires misérables, des journées de travail de 12 à 14 heures, souvent 6 jours sur 7, et un petit scandale quand même qui a éclaté lorsque 18 salariés s'y sont suicidés en une seule année l'an dernier. Des suicides que n'a d'ailleurs pas du tout compris Steve Jobs, le patron d'Apple, vous savez, ce milliardaire tellement cool qui ne met jamais de cravate. Après avoir visité les usines de Foxconn, il a déclaré que c'était pourtant un endroit plutôt sympa. Bon, soyons justes, hein, suite à ces événements, Apple a imposé à Foxconn de prendre des mesures contre les suicides de ses ouvriers. Sitôt fait, Foxconn a fait installer des filets de sécurité dans ses usines. Non loin de là, les imprimantes Brother sont également produites dans un endroit plutôt sympa. Une interview d'une jeune chinoise de 16 ans, Li, est édifiante. « Ma vie, c'est l'usine », déclare-t-elle. Elle et ses 5000 collègues travaillent 12 à 14 heures par jour, 6 jours par semaine, debout devant de gigantesques lignes d'assemblage avec interdiction de parler. Li mange 3 fois par jour à l'usine et dort 355 nuits par an dans les dortoirs de l'usine, des chambres de 10, et tout cela pour 50 euros par mois. Voilà ce que sont les conditions de vie des prolétaires du tiers-monde. Et encore, la Chine n'est pas le pays où les ouvriers sont les plus mal payés. Les récentes grèves qui ont eu lieu à Shenzhen poussent un certain nombre de capitalistes occidentaux à délocaliser de la Chine vers des pays à plus bas coût encore, comme le Vietnam ou le Bangladesh. Soit dit en passant, c'est l'un des aspects les plus choquants de la propagande de la bourgeoisie ici, en Europe. De faire passer les pays comme la Chine comme des nations expansionnistes, cherchant à tout prix à imposer des conditions de travail moyenâgeuses pour voler des emplois aux ouvriers européens ou américains. Les principaux responsables de cette politique, ce sont les capitalistes des pays riches qui font peut-être semblant d'ignorer ce qui se passe dans ces usines, mais qui en réalité le savent parfaitement, tout simplement parce que ce sont eux qui l'imposent. Un exemple, c'est une stratégie clairement théorisée par le groupe Disney que les têtes pensantes de la stratégie ont appelé le « cut and run », ce que l'on pourrait traduire par « coupe les ponts et tire-toi ». Le groupe Disney, vous savez, Mickey, Minnie, Pluto, tout ça, fait fabriquer ses produits dérivés dans des usines du Bangladesh, là où le salaire minimum, rarement respecté, est de 25 dollars par mois. Une association humanitaire raconte, pendant 8 ans, les ouvrières de l'usine de Shamakoum ont travaillé dans des conditions épouvantables, de 8h à 22h, voire minuit, 7 jours sur 7, dans un silence imposé à coups de brimades physiques, sans aucun jour de vacances, ni droit à un congé maternité. Mais en 2001, les ouvrières se révoltent et exigent que ces conditions inhumaines cessent. Elles ne demandent, à vrai dire, qu'un jour de repos par semaine, des congés maternité et des salaires conformes à la loi. Et soudain, le donneur d'ordre, Disney, cesse toute commande et disparaît. C'est cela le « cut and run ». Dès que les ouvriers revendiquent, dès qu'un syndicat menace de se créer, les commandes s'arrêtent et l'usine n'a plus qu'à fermer. Un autre témoignage d'un ouvrier vietnamien en dit long sur le fait que ce sont bien les groupes capitalistes des pays impérialistes qui tirent salaire et conditions de travail vers le bas. Il a été recueilli dans la zone industrielle de Tang Long, près de Hanoï, au Vietnam donc. Sur les 50 000 ouvriers de cette zone, 11 000 travaillent chez Canon, dont le directeur japonais, Shinji Onishi, s'exclame avec enthousiasme « C'est le meilleur endroit du monde pour produire à bas coût ». Un ouvrier de chez Canon, Yen, témoigne. « Les usines étrangères, c'est bien pour une courte période, pendant qu'on est jeune et fort. Parce qu'on reste debout toute la journée, on souffre très vite d'une mauvaise circulation sanguine, Beaucoup ont des problèmes de santé. On ne peut jamais s'arrêter. Nos mains sont fatiguées. Heureusement, après 30 ans, on peut aller dans les usines vietnamiennes où le rythme est bien moins rapide. Depuis 2 ans, en Chine, au Bangladesh, au Vietnam et dans bien d'autres pays comme l'Égypte, les ouvriers ont renoué avec les traditions de lutte depuis longtemps oubliées. À Shenzhen, les ouvriers de Foxconn et ceux de Honda ont obtenu des augmentations de salaire de 20%. Au Bangladesh, après de véritables émeutes dans les quartiers des ouvriers du textile, le salaire minimum a dû être augmenté. Ce gigantesque prolétariat du tiers-monde réapprend très vite à lutter. Son existence même renforce de façon formidable le camp du prolétariat, notre camp. C'est pourquoi nous devons nous battre de toutes nos forces contre les préjugés des travailleurs d'ici qui voient en eux des adversaires ou des concurrents et non ce qu'ils sont, les nôtres, nos frères et nos sœurs de combat, dont il est fort possible que nous aurons beaucoup à apprendre en matière de combativité dans les années qui viennent. C'est évidemment en parlant des métropoles impérialistes que sociologues, économistes et commentateurs divers se repaissent de la disparition du prolétariat. Bien sûr, il ne s'agit pour nous de nier ni la désindustrialisation relative, ni les délocalisations, ni l'augmentation notable du poids des services dans ces pays. Mais cela signifie-t-il que le prolétariat y a disparu ou qu'il ne représenterait plus une énorme force sociale ? Évidemment, non. Tout d'abord, la baisse du nombre de travailleurs dans le secteur industriel, dans les pays riches, n'est pas si énorme qu'on voudrait nous le faire croire. De 1980 à 2009, elle oscille, selon les pays, entre 5 et 18%. Ce dernier chiffre, 18%, concerne les États-Unis, ce qui n'empêche pas tout de même ce pays de compter encore pas moins de 24 millions d'ouvriers d'usine. En France, sur cette période, la baisse a été d'environ 5%, le nombre d'emplois industriels passant de 6,1 à 5,7 millions. En plus, ces chiffres sur les effectifs de l'industrie sont à manier avec des pincettes. Les statistiques contribuent largement à sous-estimer le nombre réel de travailleurs de ce secteur, et les patrons eux-mêmes ont largement contribué à cet effort en externalisant de très nombreuses tâches qui étaient auparavant exécutées en interne. Ainsi, dans le passé, les tâches d'entretien, de contrôle, de nettoyage, de logistique, etc., étaient assurées par des salariés de l'usine, qui entraient donc dans la catégorie des salariés de l'industrie. Aujourd'hui que ces tâches sont exécutées par des sous-traitants, les salariés de ces sous-traitants, qui n'ont pas changé de métier, mais seulement de bleu de travail, deviennent des employés des services. Alors, il est bien sûr impossible de savoir combien de travailleurs de l'industrie sortent ainsi des statistiques, mais on peut probablement faire confiance à un porte-parole de la très patronale Fédération des industries métallurgiques de Grande-Bretagne, qui déclarait il y a quelques années dans le Financial Times. L'industrie manufacturière crée une large portion de l'industrie des services en sous-traitant ses activités. L'industrie pourrait bien représenter jusqu'à 35% de l'économie, et non les 20% généralement acceptés, si elle était mesurée en faisant usage de définitions statistiques appropriées. Alors, certes, le prolétariat ne se limite pas aux ouvriers d'industrie, mais il est absurde et mensonger de prétendre que celui-ci aurait disparu ou serait en passe de disparaître. Bien sûr qu'il y a un certain nombre de secteurs industriels qui ont disparu dans un pays comme la France, la sidérurgie ou le textile, par exemple, et il n'est pas exclu que d'autres disparaissent demain. Bien sûr, il y a de grands groupes capitalistes qui ont entièrement revu leur méthode managériale pour ne plus avoir à s'encombrer d'ouvriers. Ainsi, Alcatel, par exemple, dont le patron Serge Tchuruk s'est vanté il y a quelques années de vouloir construire un groupe sans usine. Il y est presque parvenu, mais tout simplement parce que ce que les anciens ouvriers d'Alcatel ne produisent plus, eh bien ce sont d'autres, les sous-traitants, qui le produisent. L'exploitation, en France, en Grande-Bretagne, au Japon, aux États-Unis, elle existe très concrètement pour des millions et des millions d'ouvriers d'usines. Il y a d'une part les grandes usines, les grands groupes de la chimie, de l'automobile, où règnent les cadences épuisantes. Mais ces usines, pour dures qu'elles soient, ne sont même pas les pires, parce qu'on y trouve encore un minimum d'organisation, des militants syndicaux qui arrivent à mettre quelques freins à la rapacité patronale. Mais toute une partie du tissu industriel de ce pays, ça représente au moins la moitié des ouvriers, ce sont les petites usines, les abattoirs industriels où perdre un œil est monnaie courante, les menuiseries industrielles où l'on fabrique des boîtes de fromage et où pas un ouvrier n'a tous ses doigts, les usines où des ouvrières mettent des salades en sachet à 3 heures du matin avec une température de 4 degrés. Pour toute une partie du prolétariat de ce pays, les syndicats sont inexistants et pour leurs patrons, le code du travail n'est tout juste qu'un objet qui peut éventuellement leur servir à caler une table. Les ouvriers en France, ils vieillissent plus vite, ils meurent plus tôt, ils sont plus souvent malades. Leurs enfants sont en plus mauvaise santé que les enfants des cadres, sans parler de ceux des riches, et l'écrasante majorité d'entre eux ne fera pas d'études supérieures. Alors, peut-être que les journalistes de la presse bourgeoise ne les voient jamais, mais il suffit pourtant de prendre les transports en commun tôt le matin pour les côtoyer, ces ouvriers qui partent au travail déjà harassés de fatigue, ces immigrés pakistanais qui reviennent au petit matin d'une nuit passée à faire le ménage dans les avions à Roissy, ces femmes africaines qui partent à l'aube nettoyer les bureaux. Oui, certains ne les voient pas, ils ne les voient jamais parce que ça les arrange. Voilà qui fait penser à ce vers du poète Jacques Prévert où il parlait de « ceux qui, dans les caves, fabriquent les stylos avec lesquels d'autres, en plein air, écriront que tout va pour le mieux ». Quant au refrain, si souvent entonné, selon lequel les salariés employés dans les services ne compteraient pas dans les rangs du prolétariat, eh bien, il prête à sourire. Penser que seuls les ouvriers d'usine sont des prolétaires relève au mieux d'une lecture bien rapide de Marx, qui n'a jamais rien dit de tel, mais au pire, c'est une manière de lui prêter des idées caricaturales pour pouvoir les réfuter à bon compte. Car ses adversaires font dire à Marx que seule une fraction des travailleurs salariés, donc les ouvriers d'usine, serait potentiellement révolutionnaire. Et on imagine aisément la suite, cette fraction de salariés ayant tendance à diminuer, les marxistes se retrouveraient en quelque sorte dépassés par l'histoire. Alors cet argument travestit d'abord la réalité sociale, tout simplement puisqu'on l'a vu, la proportion d'ouvriers ne cesse de croître à l'échelle mondiale. Mais il travestit aussi les idées de Marx et doublement. Certes, Marx a établi dans le Capital une distinction entre les travailleurs qu'il appelle productifs, c'est-à-dire ceux qui produisent de la plus-value, et improductifs, ceux qui n'en produisent pas. Mais il n'a jamais écrit nulle part que cette distinction avait quelques conséquences que ce soit sur leur combativité, leur poids politique ou leur caractère révolutionnaire ou pas. Et deuxièmement, Marx n'a jamais dit non plus que les travailleurs productifs seraient nécessairement des ouvriers d'industrie. Il a précisément écrit que tout salarié producteur de marchandises était un travailleur productif, que la marchandise produite soit matérielle ou non. Il explique que le processus de production suppose en fait la collaboration de multiples travailleurs manuels et intellectuels. Le travail manuel et intellectuel étant uni par des liens indissolubles. S'il faut des ouvriers pour fabriquer une voiture, il faut aussi indiscutablement des ingénieurs et des dessinateurs. Alors pour Marx, les marchandises ne sont pas le produit d'une série de travailleurs uniques, mais de ce qu'il appelle un travailleur collectif. Ce sont donc des travailleurs productifs, tous ceux qui sont un organe du travailleur collectif, l'expression est de Marx. Et il poursuit, je le cite, « est productif tout travailleur dont le travail féconde le capital ». Ce qui inclut, par exemple, une infirmière dans une école privée, un professeur dans une école privée, c'est-à-dire dans des entreprises où un capitaliste a investi son capital en vue d'en tirer un profit. Ce n'est pas la nature de sa production qui fait qu'un travailleur produit de la plus-value, c'est son rapport avec le capital. Et Marx écrit qu'un enseignant dans une école privée, je le cite, est un travailleur productif, non pas parce qu'il forme l'esprit de ses élèves, mais parce qu'il rapporte des sous à son patron, et que celui-ci ait placé son capital dans une fabrique de leçons plutôt que dans une fabrique de saucisses, c'est son affaire. En fait, l'idée que nous devons nous acharner à défendre, c'est qu'il n'existe qu'un seul et même prolétariat, une seule classe aux intérêts communs d'un bout à l'autre de la planète. Aux intérêts communs et même dont chaque membre dépend par bien des aspects de tous les autres. Ce que la société capitaliste a créé, c'est un monde qui n'est aujourd'hui qu'une gigantesque chaîne de travail humain dont il est impossible de distinguer le début et la fin. Qui est capable de dire combien de travailleurs sont impliqués dans la fabrication d'un objet aussi simple que les pieds en fer de la chaise sur laquelle vous êtes assis? Je ne parle pas seulement des ouvriers de l'usine qui ont fabriqué ces pièces, mais avant même que les morceaux de fer passent sous les presses, il y a le reste, ceux qui ont construit leur usine, ceux qui ont construit les matériaux qui ont servi à construire l'usine, ceux qui ont construit les machines. Et pour que la matière première elle-même arrive dans l'usine, il a fallu des mineurs pour extraire le fer, des dockers pour le charger dans des bateaux, des marins pour le faire fonctionner. Et arrivé au port, il faut encore des grutiers, sans parler des ouvriers qui ont fabriqué le bateau et les grues, les travailleurs du pétrole qui ont raffiné le mazout et l'essence pour transporter tout ce petit monde, et ainsi de suite. Et avant que le fer arrive à l'usine, il faut encore des camionneurs, et pour qu'il y ait des camionneurs, il faut qu'il y ait des ouvriers qui fabriquent des camions et des pneus et des routes, et avant des ouvriers qui fabriquent du bitume. Et je ne parle pas de tous les travailleurs qui produisent pour tous ces autres ouvriers de quoi manger, de quoi boire, de quoi se vêtir, des infirmiers et infirmières qui les soignent pour qu'ils puissent retourner travailler, des instituteurs et institutrices qui leur apprennent à lire, des comptables, des secrétaires. Et pour que tout cela fonctionne, il faut un réseau de communication, des téléphones portables, des ordinateurs, et tout cela, c'est encore du travail humain. Alors, il n'est sûrement pas exagéré de dire que, vu sous cet angle, dans votre simple chaise, il y a le résultat du travail de millions de travailleurs. En divisant le travail... En divisant le travail, la bourgeoisie a finalement réussi à unifier le monde, chose que Marx, une fois de plus, avait parfaitement comprise dès son époque quand il écrivait « La grande industrie fonde l'histoire mondiale en rendant chaque nation, chaque individu dépendant du monde entier ». Alors, prétendre que le prolétariat a disparu, c'est oublier ou feindre d'oublier tout cela, ou même l'ignorer tout simplement, parce qu'il y a bien des gens dans les milieux petits bourgeois que cela n'intéresse pas du tout de savoir qui a fabriqué leur stylo. À la bourgeoisie, elle ne l'ignore pas, parce qu'elle sait où se fabrique sa richesse. Mais par bien des aspects, ce ne sont pas les bourgeois eux-mêmes qui façonnent l'opinion, qui l'influencent. Ce sont les intellectuels, journalistes, économistes, sociologues. Cette petite bourgeoisie intellectuelle ignore pour la plupart l'existence même du prolétariat, ce qui lui permet d'écrire de doctes articles pour expliquer, en toute bonne foi, qu'il n'existe plus. Ces gens-là passent tous les jours à côté d'ouvriers africains qui défoncent le bitume à coups de marteau-piqueur. Ils montent dans des trains conduits et nettoyés par des hommes et des femmes en chair et en os, mais ils ne les voient pas. Aussi, les ouvriers ont-ils pu devenir, pour beaucoup d'intellectuels, une véritable classe invisible. Peut-être parce que ces intellectuels ne prennent pas les transports en commun, peut-être parce qu'ils préfèrent circuler en Vélib. Dans ce cas, rappelons-leur que non seulement les Vélib en question sont fabriqués par des ouvriers d'une usine de Hongrie payés 400 euros par mois, mais également que si chaque matin ils en trouvent un à la borne qui est juste en bas de chez eux, c'est parce qu'il y a une petite armée de 1400 travailleurs qui passent toute la nuit à réparer les vélos et à réapprovisionner les stations. Il est invisible pour ceux qui sont aveuglés par leurs préjugés de classe. Le prolétariat est donc bien une classe sociale, toujours plus indispensable au fonctionnement de la société, toujours plus nombreuse, toujours plus implantée à l'échelle mondiale. Mais qui, depuis bien des années, manque cruellement de partis politiques capables de l'unifier, de lui redonner une conscience, de mener à nouveau le travail élémentaire qu'ont mené les militants du XIXe siècle. Depuis Marx, les révolutionnaires savent que trois conditions sont nécessaires pour qu'une révolution puisse accoucher d'une société nouvelle. Le développement des forces productives, le poids du prolétariat dans la société, et ce que Marx appelait les conditions subjectives, c'est-à-dire l'état de conscience du prolétariat. Juste avant la Seconde Guerre mondiale, Trotsky écrivait déjà, je le cite, « Le prolétariat doit comprendre la position qu'il occupe dans la société, et il doit posséder ses propres organisations visant le renversement de l'ordre capitaliste. C'est la condition qui manque actuellement du point de vue historique. » Eh bien, cette remarque, déjà profondément juste en 1938, l'est encore plus aujourd'hui. Car si les forces productives ont continué de se développer, même poussivement, si le poids du prolétariat n'a cessé d'augmenter dans la société capitaliste, eh bien, parallèlement, la conscience du prolétariat n'a pas avancé, mais profondément reculé, pour toutes les raisons que nous avons expliquées. Et conséquemment, à ce recul, ce sont les idées les plus réactionnaires, les pires préjugés, qui ont progressé dans la classe ouvrière. Le corporatisme, le chauvinisme, ici le racisme, ailleurs l'ethnisme ou l'intégrisme religieux. Mais l'histoire de la classe ouvrière, de ses défaites et de ses victoires, nous a appris que les choses peuvent changer très vite. Elle nous a montré quel trésor de dévouement, d'imagination, de combativité et de solidarité peuvent apparaître dans la classe ouvrière lorsqu'elle renaît à la conscience. Les prolétaires russes d'avant 1917 étaient patriotes, souvent illettrés, fréquemment antisémites. Et cela ne les a pas empêchés de se transformer en quelques mois en la classe la plus révolutionnaire du monde. Alors on ne peut que constater aujourd'hui le recul de la conscience ouvrière. Mais face à cette situation, la pire des choses à faire, ce serait d'abandonner nos idées, sous prétexte que les travailleurs ne les reprennent pas. Il faut affirmer que s'ils ne les reprennent pas, la faute en incombe, en premier lieu, aux générations d'intellectuels qui ont dévoyé les idées communistes et ont ainsi désarmé le prolétariat. Et les trahisons de ces intellectuels, ce sont les travailleurs qui les payent, par la perpétuation d'un système qui les opprime et qui les écrase. Alors, c'est tout de même la moindre des choses que le petit courant que nous représentons tente de garder vivantes ces idées et d'essayer de les transmettre intactes à ceux qui seront prêts demain à reprendre le combat. Ce qui peut transformer des milliards d'individus isolés en une classe sociale agissante, c'est la conscience. Et la conscience, cela passe à travers des partis. Aujourd'hui, comme hier, c'est l'existence de partis révolutionnaires communistes qui cimentera le prolétariat et en fera une véritable classe sociale, ayant une compréhension commune des événements, une politique commune, des actions communes, qui leur feront reprendre conscience qu'elle ne devra pas seulement lutter, mais bien renverser l'ordre existant et se constituer en classe dirigeante. Nous sommes toujours partisans de la dictature du prolétariat, et fièrement, parce que la dictature de 3 milliards d'individus sera infiniment plus démocratique que la dictature actuelle d'une infime poignée d'actionnaires. Voilà pourquoi il faut continuer de militer pour ces idées, continuer de les développer, malgré les vents contraires et malgré le fait que les délais soient bien plus longs que ce que les fondateurs du communisme espéraient. Il faut continuer de gagner des travailleurs à la révolution, à la conscience communiste. Les travailleurs vivent aujourd'hui non seulement dans la crainte du chômage et de la pauvreté, mais doivent en plus subir la propagande à sens unique des porte-paroles de la bourgeoisie, qui tentent chaque jour de les convaincre qu'ils ne sont rien, qu'ils ne servent à rien, qu'ils coûtent trop cher, qu'ils sont des poids morts. Eh bien, notre combat, c'est aussi de restaurer la fierté d'appartenir à la classe ouvrière. Car oui, nous avons toutes les raisons d'être fiers d'appartenir, par origine sociale ou par adoption, à une classe qui n'exploite personne, qui fait tourner toute la société par son travail, qui a toujours lutté contre l'exploitation, qui est en un mot le moteur et l'avenir de l'humanité. Alors oui, le monde a changé depuis Marx, et la classe ouvrière a changé, en mieux par certains aspects. La classe ouvrière des pays riches est aujourd'hui bien plus cultivée, c'est-à-dire bien plus apte à acquérir des idées qu'elle l'était au XIXe siècle. Et celle des pays pauvres, elle est bien plus nombreuse, bien plus concentrée, plus en contact avec le progrès technique qu'elle ne l'a jamais été. Et ce qui n'a certainement pas changé, c'est que le prolétariat est plus que jamais au cœur de la production et de l'exploitation. Et par là même, il reste la seule classe capable de changer le monde. Et ça, tant que le capitalisme existera, cela ne pourra jamais disparaître. Oui, le monde bouge, les usines ferment ici et s'ouvrent ailleurs. Certaines productions apparaissent et d'autres disparaissent. les centres de gravité de la production se déplacent. Et alors, lorsque la production des calèches a disparu pour faire place à celle des automobiles, les militants révolutionnaires n'ont pas pleurniché, mais sont allés s'implanter dans les usines d'automobiles. Oui, la période que nous vivons, la période dans laquelle nous militons, est dure parce qu'elle est marquée par la démoralisation. Et nous vivons dans un monde capitaliste, dominé économiquement, politiquement et intellectuellement par la bourgeoisie. Alors il n'y a vraiment rien d'étonnant à ce que le chemin soit semé d'embûches. Jusqu'à la Révolution, il en sera ainsi. Et comme le disait Engels, l'histoire du prolétariat se résumera à une longue série de défaites interrompues par quelques victoires isolées. Cela ne change rien à la profonde validité de nos idées et aux tâches qui sont celles des révolutionnaires. Alors les sociologues et les journalistes peuvent bien enterrer le prolétariat tous les matins si ça les amuse, ou plutôt si ça les rassure, parce que c'est bien de cela qu'il s'agit. Nous, nous savons que c'est bien le prolétariat qui enterrera ce vieux monde. Nous faisons donc nôtre, plus que jamais, les dernières lignes du manifeste communiste sans en changer un seul mot. Les communistes ne s'abaissent pas à dissimuler leurs opinions et leurs projets. Ils proclament ouvertement que leurs buts ne peuvent être atteints que par le renversement violent de tout l'ordre social passé. Que les classes dirigeantes tremblent à l'idée d'une révolution communiste. Les prolétaires n'ont rien à y perdre que leur chaîne. Ils ont un monde à y gagner. Prolétaires de tous les pays, unissez-vous.